7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Et bon retour. Pour commencer Michael, direction l'Égypte. L'Égypte devenue en moins d'un an l'un des principaux pays de départ des migrants vers l'Europe.
Oui, alors pas au même niveau que la Libye, toujours principal point de départ, mais en hausse constante. Près de 15% des embarcations entrant dans les eaux territoriales italiennes partent aujourd'hui d'Égypte. Au moins 12 000 personnes ont ainsi tenté leur chance depuis janvier dernier au départ d'un port égyptien. C'est 70% de plus qu'en 2015, selon les derniers chiffres de Frontex. Explication, la Libye est désormais beaucoup trop dangereuse, évidemment d'abord pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les passeurs, d'où ce repli sur l'Égypte. Et les candidats à l'exil ne manquent pas, Syriens, Irakiens, Érythréens, Somaliens, Soudanais, et de plus en plus aussi d'Égyptiens, comme lors de ce naufrage au large d'Alexandrie, c'était fin septembre, 500 personnes à bord d'une coque de noix, plus de 200 morts, et près d'un tiers des victimes de nationalité égyptienne, la plupart mineurs. Bonsoir François Hume Ferkatadji, correspondant de France Inter au Caire. Alors François, vous êtes rendu dans le nord de l'Égypte, à Rosette précisément, à l'est d'Alexandrie. Rencontre avec des familles de victimes et des membres d'un large réseau de trafiquants très structuré.
J'ai d'abord observé à Rosette la carcasse de ce bateau qui, surchargé, a fait naufrage il y a un mois à 12 km des côtes égyptiennes. Un bateau de pêche avec une cabine, un ponton et une cale frigorifique dans laquelle étaient enfermées une centaine de personnes. C'est Karim, un passeur qui nous emmène sur ce rivage au bord du Nil à l'écart de la ville. Mais ce jour-là, il préfère évoquer les sauvetages en mer et faire le bilan de sa saison qui se termine.
Encore une dizaine de jours, c'était une bonne saison. On va finir fin octobre, ça peut reprendre en mars avec les migrants qui attendent depuis plusieurs mois, mais c'est rare à cette période. Enfin, c'est la fin de saison. Certains ont gagné, d'autres perdu. On peut tourner la page.
Karim est désormais un habitué avec son bateau de pêche. Il est l'un des maillons d'un vaste réseau de trafic de migrants.
Je suis pêcheur en haute mer depuis 20 ans. Il y a quelques années, j'ai été approché par les réseaux de trafiquants d'une certaine manière. Et depuis, je travaille dans le business des migrants. Je sais beaucoup de choses à ce propos. Mais je ne donnerai aucun nom, aucune identité sur les gens impliqués.
Il raconte en détail l'organisation du trafic, les racoleurs présents dans chaque grande ville du pays pour mettre en contact les candidats au départ et les passeurs. Il nous parle des entrepôts désaffectés où sont cachés pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines les migrants avant de prendre la mer.
Au début de la saison, fin avril, début mai, on ne charge pas les bateaux autant qu'en fin de saison, fin septembre, début octobre. Il y a beaucoup de migrants en attente parce qu'ils doivent partir vite avant que la mer ne soit trop agitée. En ce moment, chaque commissionnaire a entre 50 et 100 personnes à placer sur les bateaux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des convois qui dépassent les 400-500 personnes.
Dans le réseau, Karim a une tâche bien précise, emmener les migrants au large sur son bateau où ils embarqueront sur un autre bateau pour l'Italie.
Chaque jour, il y a des départs de Rosette, d'Alexandrie, de Damiette, de Port Saïd.
Un business très lucratif pour Karim qui indique gagner 7000 euros par mois.
Voilà, soit quasiment 70 fois le salaire moyen. Alors des passeurs, François, qui n'ont aucun mal, on le disait, à trouver des candidats au départ.
Oui, ils sont très nombreux en effet à vouloir partir. J'ai rencontré Ahmed, un cuisinier de 22 ans. Il a déjà économisé 800 euros et emprunté de l'argent à ses proches. C'est la moitié du prix de la traversée, la compte suffisant pour pouvoir monter dans un bateau et rejoindre l'Angleterre comme il le souhaite.
J'ai décidé de partir, j'ai étudié comment faire, j'ai deux possibilités seulement. La voie légale, mais je dois faire mon service militaire de 3 ans d'abord et je ne gagne rien, c'est une perte totale de temps. Ou la deuxième façon, c'est de traverser la Méditerranée. Il faut trouver le passeur, je le connais déjà, passer un bon deal avec lui et avancer la moitié de la somme avant de partir. Le reste sera payé à mon arrivée et on verra bien comment ça se passe.
Ahmed devait se trouver dans le bateau qui a fait naufrage il y a un mois. Il a reporté son voyage en raison de l'hospitalisation de sa mère, mais malgré le drame, il n'a pas remis en cause sa volonté de partir.
Je veux partir pour travailler. Ici, je n'arrive pas à avoir un salaire décent. C'est juste assez pour mes dépenses personnelles. Je ne peux pas épargner un sou pour me marier. Je ne sais même pas comment trouver une épouse.
Voilà, projet de départ, rêve d'avenir, mais aussi évidemment cette autre réalité, François, la tristesse des familles qui ont perdu un ou plusieurs proches.
Direction maintenant le village de Gezirat el-Hadra, à quelques kilomètres de Rosette. Un bourg particulièrement touché par le dernier drame. 22 jeunes originaires de ce village déshérités ont péri dans le naufrage. Parmi eux, Hilal Hilal, 17 ans, il était en classe de terminale. Son père, Abou Chérif, nous reçoit chez lui dans une grande pièce vide, recouverte de tapis. Il raconte longuement la découverte du corps de son fils, méconnaissable, le visage arraché par le sel de mer. Son aîné, Chérif, accuse tour à tour les trafiquants et les autorités égyptiennes.
Moi, en tant que citoyen, je me demande comment ces 500 personnes ont passé la frontière maritime. Où était ma frontière? Où étaient les gardes-côtes? Où était l'armée? Est-ce que ces gens passent la frontière par chance? Ou alors les fonctionnaires sont-ils payés? Ou alors ils dormaient?
Des accusations de complicité envers les autorités reprises par tous. Karim, le passeur, comme tous ceux que nous avons rencontrés, dénonce l'implication de hauts fonctionnaires dans le réseau. Les parlementaires égyptiens viennent de voter une nouvelle loi pour alourdir les sanctions contre les passeurs et notamment contre les fonctionnaires qui seraient impliqués dans le trafic.
François Hume, Ferkataji, correspondant de France Inter au Caire, merci beaucoup. Et j'ajoute que tous les prénoms de ceux que vous venez d'entendre ont été modifiés par sécurité, et certains d'entre eux ayant dû subir un interrogatoire de la police juste après l'interview.
Et après l'Égypte, le Brésil, Michael, Rio de Janeiro, qui a depuis hier un évangélique puritain pour nouveau maire.
Oui, c'était le second tour des élections municipales. Et à Rio, victoire donc de Marcelo Crivella, c'est son nom, sénateur du PRB, le parti républicain brésilien, parti de droite ultra-conservateur et surtout émanation politique de l'Église universelle du Royaume de Dieu, formation néo-pentecôtiste de plus en plus puissante au Brésil. Et Marcelo Crivella en est l'une des grandes figures. À 59 ans, il a quasiment tout fait. Ingénieur de formation, il a été tour à tour chauffeur de taxi, militaire, missionnaire en Afrique, chef d'entreprise, écrivain, chanteur de gospel, avant d'embrasser la carrière politique il y a 14 ans, tout en étant propriétaire de Record TV, la deuxième chaîne de télé du Brésil. Et s'il tente aujourd'hui de cacher son passé de prédicateur intégriste qui diabolisait catholiques et homosexuels, eh bien il reste une personnalité très controversée, attaquée notamment sur ses liens avec les milices brésiliennes, le grand banditisme, d'où ses manifestations hier soir dès l'annonce de sa victoire. Notre correspondante à Rio, Rahabika, y était. Reportage.
Dehors, Crivella scande les opposants au nouveau maire sur la place Cinelandia, dans le centre-ville de Rio. Sans grande surprise, ils viennent d'apprendre la victoire du sénateur conservateur Marcelo Crivella. Raphaël, un étudiant en géographie, s'inquiète de l'arrivée d'un religieux au pouvoir et de ses liens supposés avec les milices.
Le grand problème de Crivella, c'est que si l'on regarde la carte de Rio de Janeiro, on constate que ce sont les quartiers tenus par les milices qui ont massivement voté pour lui. Et ça a été une grande déception qu'il soit élu maire de Rio, car il est très conservateur et va gouverner pour les évangéliques seulement.
À l'image de cette ville de contraste, l'élection du deuxième tour s'est disputée entre deux candidats aux antipodes. Marcelo Crivella, évêque de 59 ans, membre de l'Église universelle du Royaume de Dieu, a remporté l'élection face à Marcelo Freixot. Ce député local d'extrême gauche s'est distingué pour son engagement contre les milices. La figure controversée du sénateur conservateur a été écornée par de nombreuses révélations. La presse a publié des extraits d'un ouvrage où Marcelo Crivella, ancien missionnaire en Afrique, y tient des propos intolérants contre les religions afro-brésiliennes et catholiques. Une vidéo où il affirme que les homosexuels sont le résultat d'avortements ratés a également fait le tour des réseaux sociaux. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de devenir maire de Rio, la ville du carnaval et de tous ses excès, et cela n'a rien de paradoxal, comme nous l'explique Mauricio Santoro, professeur de sciences politiques à l'université publique de Rio de Janeiro.
Il y a ce stéréotype qu'on a de Rio de Janeiro, aussi bien dans le Brésil que dans le monde, que c'est la ville dédiée au plaisir, au culte du corps, à une forme plus ouverte de sexualité. Ce cliché n'est qu'en partie vrai. Il s'applique à certains endroits de la ville, à une certaine catégorie de gens. Il suffit de s'éloigner de la zone sud de la carte postale de Rio pour se rendre compte que c'est bien différent. C'est une ville qui peut être politiquement très conservatrice.
Au niveau national, ces élections confirment le virage à droite que prend le pays et signent la déroute du Parti des travailleurs. Après 13 ans au pouvoir, le parti de Lula est en pleine crise suite à la destitution de Dilma Rousseff et les révélations de nombreux scandales de corruption. Le parti de gauche a perdu 2/3 des mairies gagnées en 2012. Ces élections ont également révélé le rejet des Brésiliens pour la politique traditionnelle. Malgré le vote obligatoire, le taux d'abstention et de vote blanc a atteint 47% dans tout le pays.
Un reportage à Rio signé Rabika. Et pour finir, direction New York, Brooklyn, où lorsque vous franchissez la porte de ce lieu un peu étrange, vous entendez ça. Voilà, petite ambiance années 20, sympa, Nico. Où sommes-nous ?
Je ne sais pas du tout, Michael.
Nous sommes dans un bar à cocktails, The House of Wax, la maison de cire. Car particularité du lieu, des dizaines de vitrines sur tous les murs, du sol au plafond, abritant l'une des plus belles collections au monde de mannequins de cire anatomiques, de véritables pièces de musée des 18e et 19e siècles. Les classiques écorchés, ça on connaît, mais aussi, beaucoup plus rares, des fœtus de cire à toutes les étapes du développement, des restitutions d'opérations chirurgicales comme si vous y étiez, ablation de la langue, appendicite, trachéotomie, accouchement par césarienne, sans compter toutes les maladies de peau imaginables et plus vraies que nature. C'est une horreur. Mais ça cartonne, le bar a ouvert il y a 3 jours et ne désemplit pas. Enfin, boire un mojito à 50 cm d'une trépanation ou d'une amputation du pied, faut pouvoir.
À demain. Et vouloir. À demain, Michael.